Autre radio, autre culture, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Maïlys.
Bonjour.
Et son papa, Lucas.
Bonjour.
On l'a déjà reçu, Lucas Spira. Maïlys a 15 ans, donc on va être très indulgent avec elle. Elle est un petit peu timide, elle a un petit peu peur. Mais son papa est là et tout va bien se passer. Ne t'inquiète pas, on va te mettre à l'aise. Quand ton papa était venu il y a quelques mois nous voir, on avait parlé un petit peu hors micro de toi. Et il nous avait dit que bah, tu le suivais pas mal à travers le monde et que pour pouvoir faire ça, tu avais été entre guillemets déscolarisé du système habituel et que tu suivais des cours par correspondance. Donc comment ça se passe quand on a 15 ans, qu'on suit son papa nomade à travers le monde, qu'on a quand même un pied à terre en France avec sa maman, qu'on doit prendre des cours par correspondance? Comment on vit ça? Comment on le gère?
Niveau vie sociale, c'est pas encore ça, mais sinon pour le reste, ça va, je gère assez bien.
Tu arrives à bosser comme il faut, à t'astreindre des heures de travail?
Non, ça c'est maman qui s'en occupe.
Maman qui s'en occupe, d'accord.
Oui, parce que papa est pas très assidu sur ce genre de choses, avec lui c'est un peu plus relax sa vie. Donc en règle générale, c'est quand même maman qui est derrière à dire « t'as fait ci, t'as fait ça ». Et ça va, elle est gentille quand même.
Et quand tu parles de vie sociale, tu veux dire avoir des relations avec des camarades, c'est-à-dire tu vas pas à l'école, tu les vois pas tous les jours?
Ben, disons que quand j'ai arrêté l'école pour commencer le CNED, j'ai quasiment coupé le contact avec toutes les personnes que je connaissais. Ça a été un peu dur de refaire contact.
T'as commencé à quel âge les cours du CNED?
J'ai commencé pour la sixième.
Sixième.
Parce que c'était une transition un peu compliquée, ouais. J'avais pas envie avec l'école, la pression et tout.
C'était une volonté de ta part, c'est toi qui as demandé à papa et maman de...
Bah aussi, avec papa, on voyageait de plus en plus ensemble et ça commençait à devenir de plus en plus un problème de faire que pendant les vacances scolaires.
Ouais, c'était un peu dur de voyager en même temps qu'elle, elle avait des vacances, donc on débordait toujours un peu et ça posait énormément de problèmes avec l'école en fait.
J'imagine. Pas au début, parce que quand j'étais plus petite, la première, c'était...
On s'arrange.
Mais après,
Quand ça a commencé à poser plus de problèmes, on a commencé à émettre l'idée de peut-être envisager le CNED. On a fait le test sur la sixième, parce que c'était une bonne transition. Puis ça a marché, du coup, on a continué.
Et ça te manque ou tu compenses avec d'autres types de relations ou à travers les voyages, tu retrouves des amis que tu avais pu rencontrer dans d'autres pays les années d'avant? Comment tu gères ça?
J'ai pas particulièrement d'amis outre-mer, part, enfin, c'est pas vraiment des amis, enfin, c'est des personnes plus âgées, donc c'est plutôt des connaissances.
Ouais.
Mais après, c'est vrai que je dis merci à Facebook parce que je dois avouer que pour garder la vie sociale, c'est définitivement le plus pratique.
D'accord.
Parce que les cartes, c'est pas trop mon truc et les lettres non plus.
Facebook est un lien social donc pour toi.
Oui.
C'est intéressant.
Oui. Oui.
Mais tu vois quand même pas mal de monde, j'imagine, avec papa quand tu voyages.
Je rencontre énormément.
Même si c'est des adultes.
Et c'est pour ça qu'aussi ça a été plus dur de retrouver une vie sociale normale parce que j'étais plus habituée. Enfin, je sais que maintenant je suis plus à l'aise dans une conversation d'adulte que dans une conversation de personne de mon âge. Ça me paraît un peu.
Moi qui suis dans tes contacts sur Facebook, effectivement, j'ai l'impression que tu es un peu plus mature que les jeunes de ton âge, mais tu as l'air de bien le gérer. Tu as aussi une bande de potes, j'ai vu des photos de certains copains.
Ouais, ça va. Ça s'agrandit petit à petit.
Bon, il faut y travailler.
Ouais.
Mais tu t'éclates quand même.
Oui.
Ouais. Bon, ça marche. Moi qui suis donc dans tes amis Facebook, j'ai pu voir que tu avais apparemment une grande passion pour la photo. Il y a plein de photos et je dois dire que ce n'est pas que des photos d'adolescentes, il y a aussi des très très belles photos.
Merci.
Belles par le sujet, belles aussi par la technique, les lumières, enfin c'est juste des super photos. J'imagine que papa a une grande influence.
Oui.
Et j'imagine que des fois aussi il doit trembler parce que j'ai vu des photos qui sont absolument incroyables et c'est très très beau. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta passion, j'imagine, pour la photo, d'où ça vient, comment tu travailles ça, comment tu l'envisages?
Bon, tout a commencé à cause de lui, forcément.
Je m'en
doutais. Et plutôt grâce à lui. Et c'est venu plus ou moins petit à petit, je dirais. On n'a pas vraiment... Enfin, au début, je sais que je l'ai souvent aidé pendant qu'il faisait des séances photos et tout. Donc, j'ai commencé à me passionner de plus en plus. Et puis, je trouvais que... Enfin, ça m'a toujours plus ou moins plu. Donc, je me suis intéressée de plus en plus. Et j'avoue que je suis contente d'être assez calée en la matière. Mais j'avoue que je suis toujours... Enfin, quand je prends des photos, je les envoie toujours à papa avant de les mettre quelque part. Je lui demande son avis. Et puis après, s'il dit oui, je les mets. Et puis après, sinon, je les montre pas. ou je les supprime la plupart du temps.
Carrément, tu les supprimes, tu les gardes même pas, tu gardes pas une trace.
Enfin, ça, c'est, je pense, c'est de famille qu'on essaie d'être assez sélectif et de pas montrer ce dont on n'est pas content. Ce qui est bien, c'est qu'elle a développé son propre style. Tu vois, au début, elle m'a aidé pour faire mes photos. Et puis on a fait quelques séances co-signées, mais où tu voyais vraiment ma patte. Mais extrêmement rapidement, en fait, dès qu'elle avait une caméra dans les mains, elle est partie sur d'autres terrains et à faire des choses qui m'ont beaucoup surpris.
Elle a été l'assistante, puis elle a dû être frustrée de temps en temps, se dire « Ah, oh, j'aurais pas fait comme ça », puis elle s'est dit « Tiens, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe, c'est et vrai, je vais en faire quelques belles aussi, ouais, j'imagine. » On donnera l'adresse de ton blog tout à l'heure, pour que les gens puissent aller voir quelques photos, parce que t'as un petit blog sur lequel tu mets...
Seulement les meilleures,
évidemment, celles que papa a validées et que tu trouves suffisamment bonnes. Et donc, j'imagine, la passion que tu as eue, c'est que tu t'es fait offrir un appareil photo, tu n'as connu que le numérique, tu as travaillé un petit peu avec de l'argentique aussi, comment tu as fait
J'ai acheté une caméra argentique il y a quelques jours, je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer, et j'ai récupéré l'appareil photo Polaroid à papa.
D'accord.
Donc je vais me tâter un peu à tous les styles, mais je reste quand même grande fan du Canon.
D'accord. Et tu as pris un peu des cours, Lucas, tu lui as filé des cours purement théoriques, tu lui as offert des bouquins, parce que je suis vraiment franchement épaté par certaines de ces photos que j'ai vues, je me dis c'est assez incroyable.
Écoute, de façon assez surprenante, on est assez peu technique, on est beaucoup plus intuitif. Moi c'est pareil, souvent les gens me demandent des conseils en photo, ouais, tu pourrais m'expliquer comment ça marche. Je connais pas la moitié des réglages sur ma caméra.
La même.
Et pour elle c'est à peu près pareil, c'est assez intuitif et... Ouais, on se sert de la caméra vraiment comme une boîte à réceptionner de la lumière. Et c'est vrai que je pense que la grosse clé dans ce qu'on fait, c'est surtout au niveau de la façon de travailler la lumière et de travailler les formes, les perspectives, tout le côté graphique de la photo. C'est les deux points communs qu'on a. Après, nos styles sont complètement différents.
Oui, en parlant de perspective, je me souviens d'une grosse discussion sur une de tes photos... qui avait été prise dans un hôtel où Lucas était allongé par terre et où il y avait un personnage sur Facebook qui disait que c'était pas possible, que ça avait été retouché. Je me souviens que ça avait été... Je m'étais dit, dis donc, elle a du caractère parce que tu lui avais bien tenu tête et ça avait été assez rigolo.
C'est les premières photos qu'on a fait, enfin là où je me suis vraiment tâtée à la caméra, si je peux dire. Ouais. Et on les a fait ensemble et... Coproduction.
J'étais qu'une petite partie dans le.
T'as fait le modèle.
Ouais, voilà. J'étais le modèle, l'instigateur, mais.
Mais c'est vrai que j'ai quand même pour ces photos travaillé avec son style de photo à lui. Ouais. Et je sais que si c'est moi qui les avais fait maintenant, j'aurais sûrement utilisé une méthode différente. D'accord. Mais et encore, j'ai utilisé sa méthode, mais à ma façon.
Ouais. Pour revenir sur le numérique, juste pour rebondir parce que tu demandais. En fait, le numérique c'est surtout un côté pratique en fait. Quand tu vois. Le côté labo sec, faire la photo numérique, tu mets dans ta bécane, quelques heures ça après, marche, tu la mets sur le blog,
c'est
un côté assez pratique.
Et après, au niveau terme de coût aussi, peut-être, parce que faire les développements, etc., trouver les bons labos qui font des beaux développements, c'est pas...
Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que là, ça faisait un moment qu'elle avait envie d'essayer d'autres choses, donc on a récupéré un Polaroid pour essayer, parce que le côté pièce unique... Oui. Et assez intéressant. Et puis un appareil argentique aussi pour...
Quel type d'objectif vous utilisez quand vous travaillez vous... Pareil, vous avez des préférences pour les focales fixes, pour les grands angles, etc. Ou c'est,
non, moi,
comme tu dis, aucune technique, on prend ce qu'on a et on avise.
Ouais, franchement, moi j'ai quoi d'ailleurs
J'ai à dire à quel point c'est un outil.
J'ai un 24-70.
Ouais. D'accord.
J'ai un 24-70, j'ai un bon boîtier quand même, moi je travaille avec un 5D, elle travaille avec du plus petit matériel, mais toujours avec du Canon aussi.
S90,
d'accord.
Mais ouais, c'est vraiment des boîtes à lumière et des... Je vois pas trop l'intérêt d'avoir plein de choses qui me servent pas finalement. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un appareil qui puisse réceptionner ce que j'ai dans la tête, et voilà quoi, de manière à ce que ce soit assez polyvalent. Aussi pareil, c'est le côté nomade, tu peux pas te trimballer avec une valise d'objectifs. Déjà dans la configuration dans laquelle on est toujours overweight quand on passe les aéroports avec...
Un objectif passe partout et roule. Quoi. Depuis qu'on t'a reçu, Lucas, vous avez, toi, Satomi et parfois aussi Maïlys, vous êtes partis dans un grand tour du monde qui vous a mené en Amérique latine, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, en Allemagne, Pologne,
États-Unis.
Et Maïlys, je crois que tu suis papa le plus souvent possible.
Le plus souvent possible.
Et notamment, tu as fait tes grands débuts pendant une performance de Lucas et Satomi sur scène au Venezuela. Alors, qu'est-ce que ça fait ?
Ça fait beaucoup de pression.
Ouais.
Parce que le théâtre était vraiment grand. Il y avait 2000 personnes. La scène était aussi vraiment grande. Et j'étais la première à arriver sur scène. Donc, il n'y avait pas papa, donc c'était dur. Et ça s'est passé mieux que ce que je m'attendais. Mais j'avoue que les 5 premières minutes, je crois que c'était le plus stressant de toute ma vie.
Grand moment de solitude.
J'imagine. Dans ton kimono blanc, c'est ça, si j'ai bien vu les photos. Donc t'es rentrée toute seule et ils ont mis du temps à arriver, c'est ça?
Ouais. Je devais faire quelque chose avant qu'ils arrivent.
D'accord. Ouais, donc t'as vraiment participé à la performance.
J'étais technical assistante, mais sur scène.
D'accord. Et t'as eu plus de mal à gérer donc, le stress d'être sur scène devant tout ce monde-là, plus que de voir Lucas et Satomi performer.
Je dois avouer que ça, c'est quelque chose qui, vu que je le vois depuis que je suis toute petite, peut-être ça m'a affectée à une époque, mais maintenant, je m'en fiche complètement. Enfin, je veux dire, il y a des moments même je suis complètement indifférente. Et des fois, ça surprend les gens. Ils sont là, mais tu veux pas regarder ou t'as peur? Je suis là, non, j'ai juste trop vu. Donc,
c'est banal.
Pour moi, c'est vraiment banal. Mais bon, après...
C'est son travail. Il y en a qui voient papa...
Après, c'est vrai que...
Conduire le bus,
pour moi,
je sais pas
papa,
quoi,
c'est papa. Mais après... J'ose même pas imaginer ce que les gens pensent de mon père en dehors de ceux qui sont normaux, on va dire. Parce que, par exemple, tout à l'heure, on regardait un reportage à la télé et il disait que David Guetta était un mutant. Alors, Lucas Pira, je préfère même pas imaginer. Il vient d'une autre planète, d'un autre univers, je sais pas, mais...
Si David Guetta est un mutant, ça remet beaucoup de choses en perspective. D'accord, donc tu as bien géré le truc, quoi.
Ça va.
Le truc, c'est que pour nous, la difficulté, c'est toujours de financer les voyages, de trouver le moyen d'aller d'un endroit à l'autre. Et puis, depuis quelques années, les billets sont plus à moitié prix. Donc, c'est toujours un peu... Et là, ça faisait partie un peu du contrat, quand on a négocié avec le gouvernement vénézuélien, puisqu'on a été invité par eux, par le ministère de la Culture vénézuélien. Quand on a négocié avec eux, on a négocié les billets pour 3 personnes, 3 performeurs. Donc, à la sortie, il fallait qu'on soit 3 à performer. Et de toute façon, on avait besoin d'être 3. Donc voilà, on lui a dit ou c'est toi qui viens et tu fais la performance avec nous, ou on trouve un autre performeur. Du coup, elle a fait la performance avec nous.
Et à terme, c'est quelque chose que vous allez renouveler? Tu en as envie, toi, Maïlys, ou pas?
À partir du moment où je suis pas, comme je lui ai dit, suspendue avec une plume dans le cul, pour moi, tout me va.
Donc tu vas intégrer les performances?
Oui.
Petit à petit.
Peut-être, éventuellement.
Ouais.
Mais j'avoue que si c'est des opportunités pour aller dans des pays intéressants, j'avoue que peut-être je suis prête à le faire.
D'accord. Et la performance alors devant le ministre de la Culture vénézuélien, qu'est-ce que ça a donné? Comment ça a été reçu? Est-ce qu'il savait ce qu'il allait voir, ou est-ce qu'il était là parce qu'on lui avait dit d'y aller et que...
Il est venu très curieux en fait, parce qu'il y a eu un gros buzz quand même autour de notre performance.
Ouais. Et à vrai dire, on a fait 2 performances. Pour lui. Enfin, il y en a une qui était prévue normalement et une autre qu'on a fait en plus rien que parce qu'il venait.
D'accord. On a dû faire la performance 2 soirs de suite. Celle qui était programmée et celle qui a été faite spécialement parce qu'il était là. Ouais, il y a eu un gros buzz autour de notre performance. Du coup, c'était assez curieux en fait. Mais une bonne curiosité. Et souvent les gens ont un gros a priori quand ils entendent qu'il y a de la suspension ou des choses comme ça dans la performance. Après, les gens ont du mal à s'imaginer que la performance n'est pas en elle-même, c'est pas la suspension. La suspension, c'est juste un élément de la performance. Donc en général, on arrive quand même à avoir, entre guillemets, à avoir les gens comme on l'a eu lui, comme on en a d'autres, par le fait que les gens s'attendent à quelque chose d'assez brut. Ils s'attendent pas à quelque chose de vraiment mis en scène, de
oui,
théâtral.
C'est une performance physique plus qu'une performance artistique, quoi.
Donc ouais, la performance s'est super bien passée, c'était dans les très bonnes conditions, c'est super bien passé, le public l'a super bien reçu, les médias aussi, donc ça a été on peut dire un succès. Pour le moment, c'est une de nos meilleures performances en plus. Donc,
Et toi, côté papa, qu'est-ce que ça t'a fait de te dire que sur scène, il y avait ta fille? Est-ce que ça t'a mis un stress? Est-ce qu'avant, tu t'es dit, oh là là, est-ce qu'elle va bien gérer? J'espère que ça va pas la
perturber. Oh non, j'avais pas de doute. Elle avait de doutes, mais ouais. Moi, j'avais pas de doute. Bon,
Je pense qu'apparemment, cette mi en avait un peu, parce qu'avant la performance, on a eu quelques difficultés. Quelques grosses difficultés pour poser les crochets, genre très grosses difficultés.
On a eu des difficultés surtout.
Oui, j'ai été extrêmement stressée et cette mienne me l'a dit. Elle m'a dit, j'étais pas sûre que t'allais y arriver parce que t'étais vraiment stressée avant la performance. Mais
on a eu énormément de problèmes techniques sur plein de choses avant la performance. On a utilisé une vidéo qui a été montée une demi-heure avant qu'on arrive sur scène et ainsi de suite. Enfin, tout a été un peu périlleux, mais à la sortie ça a bien été. Parce que bon, c'est une performance qu'on tourne autour depuis un moment. On tourne souvent autour de certains thèmes, mais la forme sous laquelle on l'a présentée, c'est la première fois qu'on l'a présentée sous cette forme-là.
On peut parler de ton avenir. Qu'est-ce que tu envisages de faire plus tard, quand tu seras grande?
Principalement, j'aimerais être photographe, mais j'avoue que le tatou, c'est quand même le boulot en parallèle le plus envisageable pour moi.
D'accord, enfin, tu aimerais tatouer?
J'aimerais continuer à tatouer.
Continuer? Tu tatoues déjà?
Un petit peu.
Eh ben, c'est intéressant, ça. Ça te fait quoi de tatouer des gens quand on a 16 ans? Qu'est-ce que ça fait de se dire 15. Qu'on prend un... 15, pardon, excuse-moi.
C'est pas grave.
Un 15 ans.
Tu peux dire que t'as commencé à 7 ans.
Ah oui,
c'est
en
vrai
plus, oui.
Sur papa?
Non. Le premier tatou que j'ai fait, c'était sur Sai, qui c'est un tatoueur qui délire sur les dessins d'enfants, en fait.
Ouais.
Et du coup, j'étais là, il me fait pas, vas-y, tatoue-moi. J'étais là, ok. La machine, en plus, c'était super lourde, donc j'ai eu pas mal de difficultés. Et avec le temps, j'ai commencé à aimer de plus en plus. Donc c'est vrai que papa y est passé. En deux fois, ça va, ça s'est bien passé. Avec le temps, ça va de mieux en mieux.
Et ça, donc tu t'éclates à faire ça.
Il y a toujours du stress, mais j'aime bien. Ouais.
Le stress, c'est quoi? C'est de te dire que tu vas peut-être pas y arriver, te dire que les gens vont garder ça à vie? Qu'est-ce
oui,
qui te stresse?
C'est de me dire que les gens, ils vont garder ça à vie. Donc après, ce qui me met souvent mal à l'aise, c'est que les gens, quand je leur demande ce qu'ils veulent, ils me disent « choisis ». Je peux pas choisir pour eux quelque chose qu'ils vont garder toute leur vie sur leur corps. Enfin, du coup, ça me met toujours mal à l'aise de devoir choisir ce que je vais leur faire, parce qu'après j'ai peur que si ça leur plaît pas ou s'ils auraient préféré comme ça.
Enfin, pour toi, c'est une grosse pression, mais c'est aussi super flatteur de te dire qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent, écoute,
ah oui,
je veux que ce soit toi qui fasse mon tatou, fais ce que tu veux et je te fais confiance.
Mm.
C'est super. À 15 ans. Très bien, donc ça, tu voudrais continuer donc le tatou et faire de la photo en parallèle.
Le truc, c'est qu'elle aimerait bien aller à New York pour faire une école de photo là-bas.
D'accord.
Et parce qu'elle a un peu des liens particuliers avec New York, enfin, je sais pas, elle peut en parler. Combiner les deux, ça permet à la fois d'étudier, à la fois de financer, tout en faisant quelque chose d'intéressant. Ouais. Mais ouais, tu peux peut-être parler de tes affinités new-yorkaises.
Tu ne vois pas rester en France, donc tu préfères partir?
C'est pas que je me vois pas rester en France, parce que c'est sûr que ça va être dur de partir et tout, mais j'ai toujours adoré New York et j'y vais depuis que je suis toute petite. Je pense même que c'est un des premiers endroits outre-mer où je suis allée.
Qu'est-ce qui te plaît à New York? C'est le mythe,
tout.
C'est la ville, l'esprit, les gens, tout?
Non, je sais pas. Il y a plein de souvenirs là-bas, donc à chaque fois quand j'y retourne, c'est toujours...
D'accord.
La première fois qu'elle est à New York, elle avait 4 ans, donc je passais beaucoup de temps, moi, début 2000, et elle venait beaucoup me rejoindre là-bas. Et je trouve ça marrant, tu dis toujours
Outre-mer.
C'est la traduction de Oversea. Je sais même pas comment on pourrait dire, on dit en français.
À l'étranger, ouais. Mais ça passe, on a très bien compris ce que tu voulais dire. T'inquiète pas.
Ça juste rigolo.
T'inquiète pas. Et donc le tatouage, donc tu arrives déjà à l'heure actuelle, enfin entre guillemets, à bosser. On va s'attirer les ennuis avec la DAS, Lucas, tu vas avoir des soucis. Tu arrives à bosser, tu as du côté d'Avignon, parce que tu habites du côté d'Avignon, tu as des points de chute où tu peux tatouer, tu fais ça
non,
chez toi.
Je le fais pas assez souvent pour avoir vraiment des points de chute, des endroits où le faire. Ouais. C'est juste plus des endroits, des gens qui savent que, qui voudraient. Et du coup, avec le temps, petit à petit, je sais que j'ai fait un de mes premiers guest spots au Canada, dans un endroit, un tattoo shop, où on allait très souvent quand j'étais petite. Et c'est des très bons amis, et voilà quoi, ils voulaient. C'est plus une opportunité, donc. C'est vrai que quand je suis là-bas, j'ai pas des rendez-vous pour des tatous, mais c'est vrai que des fois, j'ai des gens qui me demandent. J'ai une copine de 14 ans qui m'a demandé que je la tatoue, bien sûr, je lui ai dit non, mais bon.
Oui, tu es obligé de t'astreindre à la même discipline que, entre guillemets, les grands. Et toi, t'es pas encore tatoué?
Non. Non, j'ai juste les oreilles percées.
Et ça te démange ou pas trop, finalement? Ou est-ce que tu te dis, j'ai le temps, je veux pas regretter plus tard?
J'aime bien mon corps comme il est, genre tout blanc. Mais j'avoue que ce serait une éventualité, mais ça me gêne toujours de savoir que je vais le garder à vie, je veux pas pouvoir le changer, enfin... J'aime pas l'idée de pas pouvoir revenir sur ma décision après, donc je sais pas, c'est à voir.
Le temps nous le dira.
Le temps nous le dira.
Ouais, y a l'exemple d'un tatoueur non tatoué dans le milieu qui cartonne bien.
C'est vrai.
Et ça fait un peu polémique, mais y a un excellent tatoueur hongrois qui s'appelle Boris, et qui est, je pense, le seul tatoueur au monde qui n'est pas tatoué.
Il n'est pas tatoué.
Et c'est un très bon tatoueur, donc bon, il est respecté pour son travail, mais en même temps, ça fait un peu polémique sur le fait que ce n'est pas tatoué.
Ouais. Voilà. Il y a plein de gens qui disent...
Et vous pensez vraiment que c'est essentiel pour un tatoueur d'être tatoué, un perceur d'être percé?
Non,
un...
non, je ne pense pas.
Et Lucas, par exemple, tu te verrais, toi, scarifier des gens ou poser des implants sans en avoir toi-même?
Moi, la démarche a été un peu inverse, tu vois. Au départ, moi, j'ai fait les trucs pour moi.
Ouais, t'as voulu te modifier, donc
voilà, il y a eu des demandes. Après, par extension, je l'ai fait, voilà. Mais je comprends très bien qu'on puisse aimer. D'autant plus le tatouage, comme il est abordé maintenant. Enfin, c'est vraiment une forme d'art très poussée maintenant. C'est moins un truc pour se marquer socialement ou un truc comme ça. Ou là, à partir du moment où tu rentrais dans une marge, il fallait que t'en fasses aussi partie. Mais c'est plus vraiment le cas maintenant. Donc tu peux très bien envisager ça comme un art sans avoir d'implication socio-culturelle autour de ça. Enfin, vraiment juste pour la partie esthétique, donc sans obligation d'appartenir à une quelconque caste. Ou...
Et pour continuer sur le tatou, quel type de dessin tu aimes faire, tu aimes réaliser? Est-ce que c'est plutôt des trucs réalistes ou...
Non, ça reste des dessins d'enfants.
Des dessins d'enfants, d'accord.
C'est ce qui me plaît, et en même temps c'est ce que les gens aiment aussi, ouais. Le fait que ce soit une enfant qu'il fasse, que ce soit des dessins d'enfants, tout, que ce soit vraiment authentique, si on peut dire. Ouais. Peut-être avec le temps ça changera, je me trouverai
un style. Parce qu'à 15 ans, tu vas être de moins en moins une enfant. Est-ce que du coup tu forces un peu le truc, tu te forces à faire des dessins vraiment plus enfantins que ce que tu ferais naturellement si tu dessinais sur le cahier parce que tu t'ennuyais en cours en classe, quoi?
Ça dépend, je peux faire des dessins vraiment, enfin pas vraiment réalistes, mais je peux faire de mon mieux pour que ce soit réaliste. Ouais. Mais après, si j'ai envie de faire un dessin d'enfant, je peux faire n'importe quoi. Enfin, après, ça dépend. J'ai déjà pensé à quelques styles, si on peut dire, pour plus tard éventuellement. Pour le moment, je préfère rester dans cette...
catégorie. Dans ce que tu sais faire, ouais, dans ce style.
Mais je sais qu'en ce moment, j'ai de plus en plus de mal à dessiner. Donc, je me tâte de plus en plus à la photo. Donc, après, il faut pas trop que je m'éloigne. Mais...
Entre les deux, ton cœur balance.
Oui.
D'accord.
Exploratrice.
Bah oui, comme papa. Donc, tu te vois, pardon, pour en revenir, je voulais te poser une question. Tu te vois à New York, donc faire de la photo et éventuellement encore du tatouage. Et tu te vois bouger comme papa, être nomade, ou tu te vois plus poser, rester à New York?
Je pense que je préférerais être poser, mais quand même avoir l'opportunité de voyager. Je trouve ça quand même intéressant. Et puis, j'ai pas envie de, juste parce que j'ai décidé que je voulais vivre là, m'arrêter de voyager. Enfin, je veux dire, papa, il a un appartement à Avignon depuis super longtemps et ça l'empêche pas de voyager. Donc, je vois pas pourquoi moi ça m'empêcherait. Ouais. Après, c'est sûr que c'est un peu dur de quitter une ville qu'on aime vraiment, mais c'est pour aller en voir une qu'on aime encore plus.
C'est vraiment un gros truc dans le fait d'être nomade, je pense, tu vois, c'est que tu t'attaches toujours aux endroits où tu vas quand ils sont intéressants, et c'est toujours super dur de partir. En même temps, tu as tellement de plaisir à
les retrouver.
Ouais, à les retrouver.
Un nouvel endroit.
Donc après, tu vas juste d'un plaisir à un autre, et en même temps d'une déchirure à une autre. Puis c'est vrai, quand t'es tombé dedans, quand t'es petit, je pense que ça doit être un peu difficile.
Ça aide. Et tu te vois faire des performances comme font Satomi et Lucas, ou pas du tout?
genre
pas forcément des suspensions ou ce genre de choses, mais ouais, des performances, c'est-à-dire te mettre en scène toi et faire une performance.
Non, je suis trop timide
pour l'instant. Ouais.
Ouais. Je préfère rester dans le petit coin de la pièce, là-bas, à regarder ou à faire,
faire l'assistant,
voilà.
Éventuellement.
C'est plus mon truc, je suis pas trop. Bon, il est pas trop non plus, mais quand même plus que moi.
Il se met au devant de la scène, en tout cas.
Ouais.
Pendant ses performances.
Ouais, mais pas par envie de me mettre, en scène. C'est plus par envie d'exprimer quelque chose. Ouais. Mais c'est pas nécessairement facile de.
Ouais, tu te fais violence quand même parfois.
Ouais, je suis pas un showman, tu vois. Je suis pas un acteur ni rien. Quand je fais mes performances, je joue pas vraiment, tu vois. Je reste quand même moi-même et.
Ouais, tu exprimes ton art sur scène.
Voilà, j'exprime ce que j'ai à exprimer. C'est vrai que ça passe.
Comme certains l'expriment sur une toile dans leur atelier, tout
voilà,
seul.
Ouais. Moi, j'utilise plein de médiums différents pour exprimer plein de choses différentes. Et pour moi, c'est juste un autre médium, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement évident. C'est vrai que pour moi, par exemple, quand je fais une expo photo, je me sens extrêmement relax. Tout le monde me dit « Ouais, t'es pas stressé ». Je dis « Mais non, mais tu vois, tout est fait. Il n'y a plus rien à faire. » Alors quand
juste
tu dois aller sur scène...
T'as juste à savourer,
voilà.
À profiter des gens.
Fait tout le travail est fait en amont et tout. Alors que quand tu dois aller sur scène, il y a quand même... Bon, après, ça peut être un moteur pour certaines personnes, mais moi, c'est pas nécessairement. D'accord. Mais bon, après, j'aime quand les performances sont bien, quand elles expriment ce que je veux, donc... Ça fait partie du jeu.
Le lapin blanc, ton surnom c'est le lapin blanc, ça vient d'où ça? J'ai ma vague idée, mais...
À vrai dire, je dirais même peut-être que même moi je sais pas trop, parce que bon, forcément on peut pas parler du lapin blanc sans parler d'Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Après je sais que j'étais, disons, une ado normale avec, qui voyage tout le temps, et au bout d'un moment il y a eu quelque chose qui s'est passé où il a quelque chose où il a fallu qu'il y ait quelque chose en plus, donc il fallait que je change aussi. Enfin, j'ai pas toujours été comme ça. Ça fait pas longtemps que je m'intéresse genre à ce que je porte et tout, mais je sais que c'est aussi pour lui que je le fais un peu, parce que disons que c'est pour être à la hauteur des autres, si on peut dire. Mais je sais que j'aime bien le temps aussi, parce que par rapport au voyage, selon là où on va, on gagne ou on perd un jour, donc, ou une heure, ou des fois des demi-heures, mais c'est assez rare. Donc voilà, je trouvais que ça m'allait bien. Et puis vu que je suis blonde, même si ce n'est pas naturel, ça ne faut pas le dire, je trouvais que ça allait bien avec le lapin.
D'accord. Donc une espèce de volonté de t'affirmer au milieu de gens qui...
Ouais, hein. Puis, comme elle dit, la notion autant, tu vois, qu'il y a toujours avec le lapin. Et c'est vrai qu'elle a toujours été assez... C'est toujours été un symbole assez fort, d'ailleurs, tu vois, son collier, c'est de montre.
C'est la nouvelle, j'en ai 5, je crois, maintenant.
C'est ton identité artistique, c'est ton toit artistique, quoi.
Par rapport aux cheveux blonds, il y a beaucoup de gens qui me comparent, qui disent c'est plutôt par rapport à Alice. Je préfère quand même le lapin blanc. Il y a quelque chose qui me plaît plus à propos de ce personnage. Et puis, quand je voyage avec lui, des fois, j'ai vraiment l'impression d'être in Wonderland. C'est vraiment... Enfin, je vois des trucs, des choses que je ne verrais pas normalement si j'étais dans un lycée comme tous les autres.
C'est sûr, et... d'accord.
Donc voilà, après, c'est... Ça s'est fait tout seul.
Follow the white rabbit.
Donc, il y a la référence à Alice, mais t'as choisi le lapin blanc, définitivement.
Je me rends bien compte qu'il y a quelque chose de différent, peut-être de la moyenne de par son vécu. Après, pour moi, c'est une petite fille normale, tu vois. Donc,
Après, je sais que notre gros débat perpétuel à moi et papa, c'est que, par exemple, quand on choisit des vêtements, pour moi, que je lui montre, avec des fleurs et plein de froufrous et plein de trucs comme ça, il me dit toujours « Ah, c'est classique !» Donc forcément, pour lui, c'est classique, mais par rapport à la moyenne de gens classiques, c'est absolument pas classique.
D'accord,
donc
je vois.
Parfois, c'est un peu...
Mais en tout cas, pour une jeune fille, on va dire, de 15 ans, tu es quand même très mature. Alors, je sais pas comment tu es dans la vie, parce que je te fréquente pas au quotidien, mais dans l'expression de ton art, j'ai envie de dire, de ton personnage, du lapin blanc, de la façon dont tu te mets en scène sur tes photos, des photos que tu prends, il y a une espèce de grande maturité qui me semble pas être celle d'une ado de 15 ans, et c'est sûrement dû, comme vous le disiez, au fait que tu as voyagé très tôt, que ton papa est artiste, que tu... tu es dans cet environnement-là, tu es toi-même photographe, tatou, artiste, donc il y a quand même une espèce d'expression artistique un peu exacerbée quand même. Par rapport, j'imagine, aux quelques copains que tu as qui ont ton âge, ils doivent pas en être là, quoi.
C'est sûr. Mais après, je reste quand même une ado normale qui aime feignasser devant l'ordinateur toute la journée.
J'espère bien.
À manger des pâtes et plein de trucs gras jusqu'à je sais pas quelle heure du matin. Mais...
C'est vrai que les premières photos, c'est parce que tu faisais référence à le fait de se mettre en scène, mais les premières photos qu'elle a fait par elle-même, où elle a commencé à développer un style, c'était des autoportraits en fait.
Avec la montre à gousset. Mais pas celle-là, c'est une autre qui m'a été offerte par Eddie. C'est l'antique, c'est celle qui a tout commencé.
Je crois que je les ai vues sur Facebook d'ailleurs.
T'es allé où?
Ouais, à 15 ans. Alors voilà, à 15 ans, toi qui as beaucoup voyagé, est-ce que tu peux nous citer un petit peu les pays, les endroits où tu es allé?
Alors j'ai fait 27 pays. Dont je suis sûre, parce que apparemment j'en ai fait 30, mais on n'est pas encore sûr, faut qu'on vérifie. Sur 5 continents, mais après il y en a forcément qui m'ont plus marqué que d'autres, et surtout parce que je sais que j'y retournerai peut-être jamais, donc ouais. C'est ce qui le rend encore plus particulier. On a passé, il y a quelques années avec papa, on a passé 2 semaines au Kenya,
ouais.
Dans une maison chez des amis, c'était magnifique. Et les États-Unis,
New York,
New York,
particulièrement autres, ou
Los Angeles aussi, j'ai beaucoup aimé. Après, il y a Détroit où j'aimerais bien qu'on retourne avec papa, parce qu'on y était déjà allé, mais on n'avait pas trop visité.
D'accord.
C'est une ville sur laquelle on aimerait bien retourner, mais après c'est vrai que ça fait un moment qu'on pense à faire un trip est-ouest, ouest-est, enfin peu importe, à voir.
Mais New York, définitivement pour toi.
Ouais.
Japon.
Mais l'Asie, oui, le Japon.
Ouais.
La Thaïlande, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé aussi Berlin, je trouve. Ça fait un peu mini New York.
Ah ouais, carrément.
Ouais, je trouve. Mais après, c'est vrai que c'est quand même différent, mais il y a un petit truc qui fait... La Nouvelle-Zélande aussi, c'est un pays magnifique. Mais je ne suis pas allée beaucoup de fois. Je crois que je suis allée 2 fois.
2 fois.
Mais c'est vraiment super beau et les gens sont super sympas. Et on était restés dans une maison super sympa aussi ce jour. Dans les montagnes avec plein de moutons autour et la rivière et petite maison et tout. C'était vraiment super.
Bien, t'en as fait quand même des choses pour une jeune fille de 15 ans. Entre le tatouage, la photo, tous les voyages, les performances. C'est chouette. Et comment te regardent du coup tes quelques copains que tu peux avoir en France quand tu les retrouves le soir à la sortie du lycée, quand, j'imagine des fois tu vas peut-être les chercher à la sortie du lycée pour passer un peu de temps.
Des fois ça.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils te disent?
Je sais que, enfin, j'en parle pas vraiment avec eux parce que j'appréhende un peu leur réaction. Enfin, ouais. J'ai pas envie de, par rapport à jalousie ou quoi que ce soit, ou enfin voilà, j'ai pas envie que les gens pensent que je me vende, parce que ça m'est souvent arrivé qu'on me dise ouais, fille à papa, blablabla, t'es pété thune, tu voyages partout. Bah bon, je voyage, mais bon, je veux dire, je reste normale quand même. Enfin, mais après, je sais que quand je raconte des anecdotes passé, j'évite de citer là où ça s'est passé, parce que ça s'est jamais passé au même endroit forcément. D'accord. Et j'ai aussi du problème genre pour les vêtements, genre où est-ce que tu l'as acheté? Alors attends, laisse-moi réfléchir. Ouais.
C'est dur de dire que le jean vient de New York, le haut vient de Tokyo et les chaussures de Londres ou de Berlin.
Ouais, elle est toujours, depuis toute petite, elle est toujours restée assez évasive là-dessus, essayer de... Elle s'est vite rendu compte quand même que ça posait un décalage par rapport aux gens et que ça pouvait poser des problèmes. Donc elle est toujours restée assez discrète sur ses aventures.
Après, je sais que ça m'arrive souvent quand les gens ils disent « Qu'est-ce que t'as fait ?» Waouh. Et en ce moment, avec papa, on rigole beaucoup sur un truc. Par exemple, quand on a fait la performance, c'est « Bon, et toi, t'as fait quoi ce week-end ?»
Ouais, ouais.
C'est un peu méchant, mais bon, en même temps, c'est vrai.
J'ai planté des crochets dans le dos de mon papa, grosso modo.
Après, c'est vrai que je sais que là, ça faisait... Là, on est parti pour un gros voyage où on a fait 3 continents quand même. Mais ça faisait quasiment 3 mois, plus même, que j'étais pas partie. Enfin, que j'avais pas bougé d'Avignon. Donc au bout d'un moment, je commence à retrouver une vie normale et des habitudes et je commence à... Enfin, disons que j'ai des anecdotes de vie beaucoup plus simples et...
Ouais, banales.
Banales, ouais. Après, je sais que, par exemple, papa, il me dit souvent ouais, tu devrais garder un carnet de voyage et tout, mais ça me fait chier à chaque fois de le faire. J'aime pas ça.
Et en même temps, t'apprécies bien de le retrouver.
Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est que pour certains voyages, mais à chaque fois, j'aime pas en faire un à chaque fois. Par exemple, là, j'en ai fait un parce que je savais que ça allait être un gros voyage. J'en ai fait un la première fois que je suis allée au Japon parce que c'était... Enfin, voilà, pour moi, c'était vraiment un gros voyage. Mais après, si j'en fais un à chaque fois que je bouge, c'est...
Oui, tu vas pas, tu vas pas, c'est, tu vas jamais t'en sortir.
Je veux dire, je vous sors la bibliothèque, si vous voulez. Et puis, je suis pas très assidue, même sur les cours, donc tenir un carnet de voyage, pour moi, c'est un peu compliqué. Envoyer les cartes postales, c'est jamais ça. D'ailleurs, j'ai encore dans mon sac les cartes postales que j'étais supposée envoyer à Las Vegas, que j'ai écrites au Japon, et que j'ai ramenées ici, parce que j'ai pas eu le temps de les envoyer.
Écoute, le principal, c'est que ça arrive. Donc là, après 3 mois de voyage, quand tu vas revenir à Avignon, il va falloir sévèrement cravacher pour rattraper les cours, non? Ça va aller? T'avais pris un peu d'avance?
J'ai travaillé un peu quand même.
T'as travaillé? D'accord.
Ouais, Non, je fais quand même, parce que quand papa est parti en Australie, je suis restée au Japon, et je restais chez des amis, mais j'essayais de pas rentrer trop tard, donc après j'avais beaucoup de temps libre, si on veut, donc je faisais quand même pas mal de cours et j'ai commencé à apprendre le japonais, donc il fallait forcément que...
Ouais, donc ça a été studieux quand même. Et tu envisages de continuer les études, de passer ton bac, d'aller plus loin, ou à 16 ans tu vas essayer d'arrêter? Comment tu vois?
Je veux voir comment ça se passe, j'aimerais quand même aller après l'université, mais ouais. Je sais que j'aurais peut-être pas les capacités dans certaines matières pour assumer d'aller plus loin, parce que je sais que j'ai beaucoup de problèmes en maths et en français, mais bon, après, si je vais dans une école aux États-Unis, le français sera pas trop un problème, mais les maths, c'est universel, donc si t'es pas doué en maths en France, tu le seras pas non plus aux États-Unis.
Elle bosse tous beaucoup sur les langues, déjà, tu vois.
Bah oui, complètement. T'es parfaitement bilingue, français-anglais au moins.
J'ai commencé l'espagnol et l'année dernière et le japonais cette année.
Philippe, notre ami qui a la technique, te dirait que les maths, c'est jamais qu'une langue. Voilà, il suffit de la comprendre, de comprendre les règles et les mécanismes. C'est une langue comme les autres. Moi, je suis content de t'avoir invité parce que je t'ai découvert un petit peu. Ton papa nous avait parlé de toi et j'ai découvert au hasard sur Facebook un peu toutes tes photos, tous tes trucs. Et je me suis dit, c'est incroyable. Je me suis dit, cette gamine de 15 ans, elle a un truc, c'est assez génial. Et j'ai vu ton caractère quand tu répondais à certaines personnes et tout. Je me suis dit, c'est super. Voilà, donc j'espère que tu vas... continuer à t'épanouir artistiquement. Merci. On va donner l'adresse de ton blog pour que les gens puissent aller voir un petit peu les photos. Donc l'adresse du blog, c'est mylis, mylis.wordpress.com, et vous tomberez sur le blog qui s'appelle The White Rabbit, et c'est
Upon
le blog de Mylis.
Trip to Wonderland.
Voilà.
Elle a tout dit à papa.
Voilà. Et donc vous retrouverez les photos, quelques textes, etc. Merci à tous les deux. Merci Mylis, merci Lucas.
Merci à vous.
Et puis donc à très bientôt sur Autre Radio, Autre Culture. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Autre Radio, Autre Culture.